Oui, vous avez fini de taper sur les capitalistes, bande de jaloux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites-en donc la même chose, on vous dira.
Oui, salut Daniel. Je t'ai dénoncé sur le site délation.gouv.fr au numéro 8998 IFG 41I. Grosse bise, à bientôt, salut.
Dis donc Daniel, t'as envie qu'on casse nos postes de radio à nous passer tous les copains de Sarko, Mireille Mathieu, Enrico Macias, Michel Sardou, oh là là, puis alors Bigard, oh, non mais on va, moi j'ai été prête à casser mon poste de radio. Non mais c'est pas possible ça. Bon, c'était Emmanuel du réseau No Passaran, hein? Ciao vive.
Bonjour, c'est Gérard, un petit Belge de Bruxelles. Je viens de, bravo pour l'émission, je viens d'écouter l'émission ce vendredi, et après l'émission, voilà une humeur, j'ai entendu une publicité vraiment puante. Vous n'en êtes pour rien, mais comment est-ce possible sur le service public français ou belge, et on a ça aussi, vous voulez être plus riche que riche, avec une voix moqueuse et rouée. Ben, c'est vraiment puant pour le service public. Voilà, au revoir, Gérard, le petit belge de service, le petit bruxellois de service, mais très francophile. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Violaine de Joinville. Alors, je suis en train d'écouter aujourd'hui, vendredi, le répondeur de la Bastille, j'y suis, et je voulais simplement dire, en réponse à une dame qui demande à Daniel Mermet s'il aimerait avoir une barre HLM construite devant chez lui, que justement, nous, devant chez nous, on a une HLM qui a été construite l'année dernière et nous en sommes très contents car elle est très jolie et c'est très vivant et ces gens sont très bien logés et ça permet aux enfants de tout le monde de se retrouver à l'école. Et voilà, donc simplement pour dire qu'on est dans un quartier dit mixte, je crois, avec des propriétaires, des gens qui vivent dans des HLM, des gens qui vivent dans du 1% logement. Et il y a une super ambiance et moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus comme ça partout. Voilà, et ça c'est à Joinville-le-Pont dans le 94. À bientôt.
Bonjour, c'est un auditeur de votre émission. Je suis complètement écœuré de ce que j'ai entendu aujourd'hui, 11 mai, et de votre hargne contre Sarkozy, contre Bolloré, etc. Et je remarque en plus que vous avez bien pris soin de ne pas répondre au message qui vous demandait où vous habitiez vous-même. En logement social, en camping, en appartement, en palais, en bel appartement, bien installé à Paris. Et puis, d'une part, quand vous vous foutez des voyages des autres, est-ce que quand vous allez en Chine ou ailleurs, aux frais de France Inter, et donc aux frais de la redevance que nous payons tous, est-ce que vous faites des réflexions à ce moment-là? On n'en fait pas, nous. Alors, abstenez-vous de faire des réflexions aussi bêtes et lamentablement idiotes que celles que vous faites et que vous laissez copieusement répondre sur votre antenne par les gauchistes qui n'acceptent pas le vote des Français à une grande majorité. Voilà, je suis écœuré des saloperies que vous pouvez répandre tous les jours sur votre émission. Au revoir, monsieur.
Bon, c'est Claude, là, je suis à Malaga. À côté de José Bové qui va peut-être dire un petit mot. On a que 2 minutes. Bon, je vous le passe.
Allô? Allô, voilà, bah écoute, on est à côté de Bordeaux, on est à Saint-Macaire, voilà, on a eu un débat sur Jacques Ellul et comment est la propagande, donc avec ce qu'on a vécu en France ces dernières semaines, ces derniers mois, et ben je pense que une réflexion sur la propagande et comment les pouvoirs aujourd'hui se construisent avec un discours de propagande, bien on en voit malheureusement les effets dans les urnes et bientôt on va les voir aussi dans nos vies quotidiennes. Bye bye à vous et bonne continuation. Le combat continue. Mais voilà, c'était José Bové. Bon, ben ciao et à bientôt.
Et ben voilà, c'est un drôle de hasard. C'était José Bové et autour d'un débat sur autour de Jacques Ellul. écrivain et philosophe Jacques Ellul, sur le thème de la propagande. Tiens, drôle de hasard, parce que ça va être notre un de nos thèmes aujourd'hui, qui courra tout au long de la semaine, avec Noam Chomsky et compagnie. Noam Chomsky, vous le connaissez sans doute, c'est un nom qui vous dit quelque chose. En vérité, c'est sans aucun doute l'intellectuel contemporain le plus célèbre au monde et le moins connu en France. Et on va essayer de savoir pourquoi est-ce que l'intellectuel vivant le plus cité au monde, c'est une référence informatique que je vous cite. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il est méconnu, disons, en France? C'est pas tout à fait vrai, puisque depuis quelques années, il y a un public jeune, assez fervent, qui suit les publications de Chomsky. Mais enfin, il y a une question chez nous, puisque on a regardé dans les archives de Radio France, depuis 40 ans, il y a 5 petites interventions, brèves interventions de Chomsky en 40 ans. Et encore, ça ne regarde pour l'essentiel que son activité de chercheur en linguistique. Mais ses interventions politiques, ses analyses, etc., il y a encore moins de références. En tous les cas, il n'a jamais parlé, jamais intervenu sur France Inter, sauf une fois dans la base où j'y suis, il y a pas mal d'années, concernant le Timor et l'Indonésie. Donc on va passer cette semaine avec cet intellectuel que nous sommes allés rencontrer à Boston, où il vit et où il enseigne, au Massachusetts Institute of Technology, MIT, de Cambridge, près de Boston. Et puis, on ira rencontrer un certain nombre de chercheurs, d'intello, qui travaillent et qui recherchent dans une ligne comparable à celle de Noam Chomsky. On va aller entre... On va éviter deux écueils, le rejet de Chomsky qu'on rencontre assez fréquemment en France et l'idolâtrie. C'est pas du tout un homme qui se prête à ça, vous allez voir, c'est un homme très simple, avec son jean et son pull, qui vous reçoit dans son bureau et qui n'a qu'une hâte, c'est vous faire part de ses analyses, de ses connaissances qui sont immenses et incroyables. Là, ça fait l'admiration évidemment et l'étonnement de tous. Et on va passer donc du temps avec lui sur nombre de sujets que vous découvrirez tout au cours de cette semaine. Auparavant, avant de commencer, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, dont une affaire dont on nous rebat les oreilles.
Oui, bonsoir Daniel. Alors aujourd'hui, en allant consulter ma boîte aux lettres, je suis comme d'habitude passé par le site qui la gère. Ce site, elle propose des pages d'actualité et l'une d'elles m'a intrigué. Et on y affirmait que Cécilia Sarkozy n'aurait pas voté dimanche dernier et qu'un article écrit à ce sujet aurait été censuré. Cela me surprend beaucoup, car la France est une démocratie. Cette information est certainement le fait de personnes mal intentionnées. L'article nous rassure toutefois, car il précise que, heureusement, des membres de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy sont intervenus. Vous vous rendez compte ? L'article aurait même été illustré d'une photo de la liste d'émargement et il mentionnait également de vifs échanges dans la soirée du 6 mai au sein du couple. C'est sans doute au moment du triomphe à la Concorde qu'ils ont laissé éclater leur joie, c'est normal. Hein. Mais où est le problème ? Bravo à cette femme comblée par le destin, si elle n'a pas été votée au second tour. Elle a simplement pris les devants car pour progresser dans la régression... Il nous faudra non seulement dépasser 68, mais aussi 36. À cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Merci pour votre émission.
Le repère de Ploubalet a lieu habituellement le deuxième mardi de chaque mois. Exceptionnellement ce mois-ci, à cause de jours fériés, il aura lieu le mardi 15 mai à 20h au Penalty chez Marie et Pierrot à Ploubalet. Donc rendez-vous au mardi 15 mai, 20h au Penalty à Ploubalet. À bientôt.
Tonight I'll be talking with a man who has been thinking about how we can see the developing line. He says that propaganda is to democracy what violence is to a dictatorship.
Plus breaking news on Fox News Live right now.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si, j'y suis avec Guy Vanctil, Chomsky et compagnie. Viens, allons pêcher, dit le pêcheur au ver de terre.
Noam Chomsky, les enfants n'apprennent pas à parler, ils savent.
C'est la révolution chomskienne.
Oui, ben alors c'est extraordinaire.
C'est tout à fait extraordinaire. Cela veut dire que le langage est inné, le langage est dans nos gènes, tous les enfants savent parler même s'ils n'apprennent pas. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas tous la même langue? Eh bien Chomsky nous dit, ils parlent tous la même langue, profondément, les structures de toutes les langues sont identiques, mais évidemment, en fonction du pays auquel vous appartenez, vous êtes orienté vers tel ou tel langage, c'est-à-dire que la surface du langage varie, mais au fond nous parlons tous la même langue, nous avons une espèce de structure innée, génétique du langage.
Il faut quand même écouter de très près ce que dit Chomsky, et je suis persuadé que les auditeurs vont retenir et peut-être prolonger le débat. Ce ne sont pas les adultes qui apprennent à parler à leurs enfants. Les enfants sauraient parler comme ils savent voir ou comme l'oiseau sait voler. Oui. Vous le pensez?
Ah, écoutez, moi, ce que je pense n'a pas d'importance. Chomsky travaille depuis 30 ans sur ce sujet.
C'est une théorie reconnue. Alors, elle est contestée.
C'est une théorie qui est soumise au feu de la critique depuis 30 ans, mais qui est de mieux en mieux admise. C'est aujourd'hui la théorie dominante en linguistique. Le langage paraît inné. Une preuve, c'est qu'il y a certaines fautes de grammaire que les enfants ne commettent jamais dans aucune langue, et bien qu'on ne leur ait pas enseigné la grammaire. C'est une des preuves avancées par Chomsky, donne beaucoup d'exemples, comme quoi la grammaire est innée. Elle est dans nos gènes.
Voilà Jacques Chancel et Guy Sorman en 1989 évoquant Noam Chomsky. Évocation, une des rares évocations. Je ne parle même pas d'entendre Chomsky lui-même, mais une des rares évocations de Noam Chomsky, le linguiste Chomsky. Sa révolution, effectivement, en matière de langage, en matière de linguistique, avec la grammaire générative, fait de lui un des scientifiques, un des chercheurs en linguistique les plus respectés et les plus cités au monde. Mais ce n'est pas la seule activité de Noam Chomsky. Il est par ailleurs, on va dire, un penseur activiste, un intellectuel engagé depuis fort longtemps. Il a aujourd'hui 79 ans, et dès sa jeunesse, dès le conflit au Vietnam, Chomsky s'est engagé dans toute une série de causes. S'engager comment? S'engager, eh bien, avec des analyses sur l'actualité, sur les faits, mais avec une façon toute particulière de penser et d'analyser les choses, qui sont de dire, à la différence de la plupart des intellectuels qui disent « Ah, si tout le monde pensait comme moi, vous devriez penser comme moi, et alors le monde changerait », Chomsky a l'air de nous dire « Ah, si seulement tout le monde pensait, ça suffirait à ce que le monde change ». Et il pense que le monde change. C'est un homme très très encourageant que nous allons rencontrer dans l'entretien qu'il nous a accordé à plusieurs reprises. On lui a dit « Mais est-ce que tout ça fait changer les choses? Qu'est-ce que nous pouvons changer? Qu'est-ce que ces engagements, ce qu'il appelle l'activisme populaire, a montré, a changé? » Et là, il montre toute une série d'exemples, de références à l'histoire ancienne ou contemporaine, ou actuelle, ou tout actuelle, qui montre que l'engagement populaire, l'engagement de tous, est tout à fait capable de modifier les choses. Alors, on est à Boston, c'était depuis longtemps, l'équipe de là-bas, si j'y suis, souhaitait rencontrer Chomsky. C'est très difficile parce que c'est un monsieur qui a un emploi du temps extrêmement serré, extrêmement chargé. Il essaye de recevoir tous ceux qui demandent à être reçus, à le voir, pas seulement les élites, et pas seulement, il peut être tout à fait capable de faire attendre un prix Nobel qui vient le voir s'il est en train de parler avec un étudiant qui finit un de ses cours. cours, un de ses travaux, mais c'est effectivement difficile de le rencontrer. C'est un homme qui travaille beaucoup, qui travaille, dit-on, une centaine d'heures par semaine, donc en divisant son temps entre la lecture, évidemment, il est capable d'accumuler, d'enregistrer une quantité extraordinaire de documents. Et puis, des échanges très nombreux avec des correspondants à travers le monde. Il a la réputation de répondre très très vite aux mails et aux courriers qui lui sont adressés. Et puis, il passe aussi pas mal de temps donc à recevoir, à discuter, et aussi à faire des conférences à travers le monde. Il bouge peut-être un petit peu moins maintenant, encore que. Et puis aussi à intervenir quotidiennement, ou presque, dans une série de sites, de revues, dont un site sur lequel il intervient très souvent, qui s'appelle Znet, Znet, Znet. Il n'est pas le seul à intervenir sur ce site. Voilà, un homme en mouvement, un homme actif, un homme aussi contesté, notamment en France. Pour quelqu'un comme Alain Finkielkraut, Chomsky est l'intellectuel planétaire le plus populaire, c'est tout dire. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas, il n'a pas la place qui lui revient en France? Eh bien, il y a cela une série de raisons. Il y a l'histoire avec Robert Forisson, on en parlera. Il y a aussi l'histoire avec le génocide cambodgien. Pour un certain nombre de critiques, Chomsky aurait eu des faiblesses, des complaisances envers le régime cambodgien. Ou bien alors, il y a une autre thèse qui s'oppose à Noam Chomsky, c'est que sa pensée, notamment en ce qui concerne l'information, la propagande, la politique étrangère américaine, relève de la paranoïa, d'une paranoïa archaïque et d'une théorie du complot. Alors, on viendra sur tout ça, et on va essayer avec lui, évidemment, on arrive avec une foultitude de questions, d'aborder un certain nombre de thèmes qui nous semblent nous éclairer ici de ce côté-ci de l'Atlantique. J'emploie le mot éclairer pas de manière involontaire. Très souvent, Chomsky est assimilé aux penseurs des Lumières, aux penseurs du 18e siècle européen. Ses références, on va le voir avec Jean Bricmont, qui lui aussi est un chercheur dans cette ligne de Chomsky, qui est un chercheur belge, et qui compare très souvent Chomsky à Voltaire, par exemple, mais sans qu'on puisse lui trouver véritablement une filiation, comme on l'y trouve parmi nos intellectuels européens, et notamment français. Donc un personnage singulier, original, avec qui nous allons parler, et encourageant, encore une fois, et stimulant, et qui propose sur le monde qui nous entoure une lecture et des éclairages. Tant pour lui, il est vrai qu'il y a des structures au maintien de l'ordre qu'il s'agit de mettre à nu. En exergue d'un film tourné sur Chomsky, sur son travail, qui s'appelle La fabrique du consentement, il y a cette phrase superbe de John Milton, qui date de 1642, « Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugles ».
But I'm told that in places like in the Arctic, where indigenous people sometimes might hunt a wolf, they'll take a double-edged blade and they'll put blood on the blade, and they'll melt the ice and stick the handle in the ice so that only the blade is protruding, and that a wolf will smell the blood and wants to eat. And it'll come and lick the blade, trying to eat. And what happens is when the wolf licks the blade, of course, he cuts his tongue and he bleeds. And he thinks he's really having a good meal. He drinks and he licks and he licks. And of course, he's drinking his own blood and he kills himself. That's what the imperialists did to us with crack cocaine.
as something that's bringing resources to them, but they're killing themselves just like the wolf who's licking the blade, and they're slowly dying without knowing. That's what's happening to the community. You with me on that? That's exactly and precisely what happens to the community. And instead of blaming the hunter who put the damn handle and the blade in the ice for the wolf, that what happens is the wolf gets blamed for trying to live. That's what happens in our community. You don't blame the person, the victim, you blame the oppressor. Imperialism, white power is the enemy. Was the enemy when it first came to Africa, snatched up the first African brothers here against our will, is the enemy today. That's the thing that we have to understand.
La raison de cette rencontre avec Noam Chomsky à Boston est en grande partie due à la publication dans les cahiers de Lerne d'un numéro spécial, d'un cahier spécial sur Chomsky. Je vous recommande très très vivement la lecture de ce cahier de Lerne. Lerne, ça s'écrit L apostrophe H-O-R-N-E, hein, Lerne, et comme pas mal le craignaient, il n'y a eu aucun écho sur ce travail et cette publication, enfin très très peu d'écho en France sur ce travail. C'est destiné à un public francophone et c'est très 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 complet. Toutes les questions qui peuvent se poser sur le travail de Chomsky, notamment en linguistique, mais aussi les fameuses polémiques dont que j'ai évoquées, l'affaire Faurisson, la liberté d'expression, le Cambodge, la théorie du complot, etc., sont exposés précisément dans ce cahier de Lerne, avec beaucoup de documents, de précisions, etc. Mais évidemment, c'est pas les seuls papiers. Il y a beaucoup de contributions d'auteurs divers et variés que vous connaissez, comme Jean Ziegler, par exemple, ou Suzanne George, que vous avez déjà entendu dans Là-bas, si j'y suis, et que vous connaissez de façon plus générale. Celui qui a... de Lerne, c'est Jean Bricmont, qui est professeur au département de physique théorique et mathématiques à l'Université catholique de Louvain, et que nous sommes allés voir à Bruxelles pour qu'il nous présente un petit peu le Chomsky, Noam Chomsky, qu'il connaît bien et dont il connaît bien l'œuvre. Alors, Jean Bricmont, parlez-moi un peu de Chomsky, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui compte beaucoup dans votre travail et dans votre vie.
Oui. Oui, ça c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, quand je suis arrivé aux États-Unis en 78, je ne connaissais pas du tout Chomsky, qui n'était pas très connu. En tout cas, moi, j'avais pas eu l'occasion beaucoup de rencontrer sa pensée dans la pensée française de l'époque. Et ça m'a beaucoup séduit, parce qu'il a une approche très scientifique des choses. Il y a une vision qu'on pourrait qualifier proche des Lumières françaises ou de la philosophie des Lumières, de la pensée des Lumières. Et moi, c'est vrai que c'est une approche de l'être humain, du langage et aussi de la société, de la politique qui me plaît. Et en général, je trouvais sa réflexion morale extrêmement décapante, sa critique de l'hypocrisie, sa critique de l'intelligentsia, sa critique des médias, sa critique du discours dominant, son travail de démystification, qui est vraiment un travail d'éclaireur de gens des Lumières, etc., qui consiste à démonter les mécanismes de pouvoir dans le discours dominant et les mystifications que le pouvoir utilise pour se légitimer. Et ça, c'est, à mon avis, le travail que les intellectuels devraient faire. Je contrasterai la vision de l'intellectuel qui se veut comme éducateur des masses, que vous retrouvez à la fois dans un certain nombre d'intellectuels, de penseurs dominants aujourd'hui, qui pensent qu'ils doivent toujours expliquer aux masses ce qu'ils doivent faire, leur expliquer, leur transmettre leurs valeurs démocratiques supposées, et dans l'intellectuel de type léniniste, qui est aussi un éducateur des masses. Tandis que la vision des choses des Lumières, ou la vision des choses qu'on retrouve dans certains courants anarchistes ou dans les libertaires, c'est de dire, on essaie de dire la vérité, de clarifier les choses, et puis après les gens en font ce qu'ils veulent. Les gens restent libres, on essaie simplement de les éclairer en démystifiant ce qui est produit déjà par l'intelligentsia. Et donc le rôle de l'intellectuel critique, c'est simplement celui-là, mais c'est pas de proposer des programmes, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, de régler tous les problèmes de leur vie, etc.
C'est pourtant ce que faisaient plus ou moins des grandes figures comme celle de, je pense, Sartre par exemple.
Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombe rapidement dans le rôle de gourou, de prophète, d'éducateur de masse. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut peut-être m'arriver à moi en vieillissant, mais c'est pas quelque chose que je souhaite et c'est pas le rôle que je trouve que l'intellectuel doit remplir. Je trouve que l'intellectuel doit simplement se limiter à essayer de clarifier les idées dans la mesure où justement le discours dominant s'emploie à les obscurcir. De Chomsky que j'ai connu dans le temps et peut-être encore aujourd'hui ne propose pas de solution, ne prétend pas éduquer les gens mais les éclairer, c'est différent c'est-à-dire qu'il y a une façon non autoritaire de procéder qui consiste à dire écoutez on vous raconte des trucs que j'estime être mystificateurs, voilà pourquoi mais ce n'est pas la même chose. Je pense que par exemple si vous prenez le débat que vous aviez en France sur le traité constitutionnel européen. Je pense que la position de beaucoup d'intellectuels dans ce débat, qui était pour le oui, était celui que j'appelle ironiquement d'éducateur des masses, c'est-à-dire les masses ne sont pas éclairées, il faut leur dire que l'Europe c'est magnifique, patati patata. Et donc, de propagateur, si on veut, du discours dominant, d'explicateur du discours dominant, de ce que Chomsky appelle en fait la prêtrise séculière, moi j'aime beaucoup cette expression, la prêtrise séculière, c'est-à-dire c'est une expression qui a été utilisée ironiquement à propos des intellectuels des partis communistes dans les pays de l'Est, mais Chomsky la reprend pour désigner les intellectuels, les Bernard-Henri Lévy ou des gens de ce type-là, qui vont légitimer le discours dominant et qui jouent le rôle, si vous voulez, des prêtrises dans les sociétés traditionnelles. Qu'est-ce que c'était pour moi la prêtrise ? La prêtrise, ce sont des gens qui se situent entre le prince ou le roi ou le monarque, etc., et le peuple, et qui interprètent la parole divine de façon à légitimer le pouvoir temporel et ce faisant se créer une niche, si vous voulez, dans la société où ils sont récompensés par le pouvoir temporel pour les services rendus. Et je pense qu'une bonne partie de l'intelligentsia, des journalistes dominants, etc., fait exactement cela dans la société actuelle où la prêtrie, le pouvoir temporel est entre les mains, on va dire, des capitalistes, d'un certain nombre d'hommes politiques, etc. Et alors les intellectuels se mettent entre eux et le peuple pour expliquer au bon peuple ce qu'il doit penser.
Welcome back to World News Asia. More now on the story that is dominating the business headlines. The news that Daimler Chrysler is selling off its Chrysler unit. For a look at how that's playing out in the markets, it's over to
Salon Urshlansky qui participe à ce numéro de Lern sur Chomsky. Il dit les écrits politiques et historiques de Chomsky étudient les mécanismes idéologiques des sociétés occidentales et décryptent les non-dits et les manipulations du discours officiel. C'est sans doute par là qu'on peut aborder le travail critique, les analyses critiques de Chomsky, et notamment par l'un de ses analyses, un travail le plus célèbre, le plus fameux et le plus repris avec son camarade Hermann sur ce qu'il appelle la fabrique du consentement. Manufacturing Consent, ça fait l'objet d'un livre d'abord, puis ensuite d'un film tout à fait passionnant. C'est donc les premières questions qu'on a envie de poser à Chomsky sur cette fabrique du consentement, comment fonctionne le contrôle de l'opinion dans des sociétés démocratiques, dans les sociétés totalitaires. On connaît, on croit connaître comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne dans des sociétés ouvertes comme les nôtres. Et si l'on demande à un journaliste, essayez, s'il subit des pressions, s'il répondra que non. C'est la question qu'on pose presque toujours à un journaliste. Alors on est arrivé dans le bureau de Chomsky, au MIT, donc c'est un bureau assez curieux. C'est une partie du MIT qui a été dessinée par un fameux architecte qui s'appelle Frank Gehry. Et tout est en biais, tout est de guingois, comme ça. Et voilà, donc, première question à Noam Chomsky. Si on prend un journaliste vedette, un animateur vedette d'une émission, et si on lui pose la question, est-ce qu'il y a des pressions qui s'exercent sur vous, est-ce que vous êtes censuré? Il va dire non, bien sûr, je suis absolument libre, je dis ce que je veux. Comment fonctionne le contrôle de la pensée dans une société démocratique, dans des dictatures, on le sait, mais
journalists do say when they're criticized, journalists do say I'm absolutely free. There's no pressure on me at all. I write any column I want to write and so on. And it's correct.
Les journalistes, quand ils sont mis en accusation, ils disent tout de suite, personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis libre de prendre toutes les positions que je veux.
However, if they took positions that were outside the accepted framework, they wouldn't be writing the columns.
Mais s'ils prenaient des positions, par exemple, des opinions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos.
This is not 100%. So, for example, I can write op-eds in American newspapers, but it's overwhelmingly the case.
Non, c'est bien sûr, c'est pas 100% des cas. Moi-même, je peux écrire des éditoriaux dans la presse américaine.
It's not a totalitarian state.
C'est pas un état totalitaire non plus.
But the fact of the matter is that unless you meet certain requirements and conditions, you're not going to be a leading commentator.
Mais si tu rentres pas dans un certain cadre, dans un certain nombre de critères, tu ne seras pas pris en compte comme un des commentateurs écoutés.
And in fact, that illustrates the way the difference between propaganda systems in totalitarian states and in democratic societies.
Et ça montre la différence qu'il y a sur le fonctionnement de la propagande dans des états totalitaires et dans des démocraties.
A little bit of exaggeration, but in general it's like this. In a totalitarian state, state power produces the party line, it declares the party line, and you have to adhere to it.
En exagérant un peu, dans les états totalitaires, c'est l'état lui-même, la tête de l'état, qui décide de la ligne à suivre, et la propagande qui viendra avec, et chacun doit s'y conformer et s'y soumettre.
In democratic societies, it doesn't work like that.
C'est différent dans les sociétés démocratiques.
The party line is never articulated. It's presupposed.
La ligne du parti n'est jamais énoncée comme telle. Elle est sous-entendue.
And then within that presupposition, it encourages passionate debate, but within the framework of the presupposition.
Voilà. Et dans ces présupposés, dans ces sous-entendus, là, on pourrait y avoir, dans ce cadre strict des présupposés, un débat passionné, mais qui sera limité à tout ce qui n'est pas dit.
Now the system in the democratic societies is very effective. It instills the party line because nobody even questions it. It's like the air you breathe, you don't look at it. So it instills the party line and it gives the impression that there's a vigorous debate.
Voilà, là, dans les sociétés démocratiques, la ligne directrice, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue et donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux.
It's a very effective system. Works much more effectively than in a totalitarian
system. Et c'est très efficace comme système et que ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires.
Nowhere else are people so addicted to information and entertainment via the printed word. Every day the world comes thumping on the American doorstep and nothing that happens anywhere remains long a secret from the American newspaper reader. It comes to us pretty casually, the daily paper. But behind its arrival on your doorstep is one of journalism's major stories, how it got there.
Je voudrais qu'on commence, Monsieur Chomsky, à parler des médias. Je voudrais qu'on évoque une élection qu'on a eue en France en mai 2005. On a eu un référendum sur le traité de constitution européenne. La majorité des médias était pour le oui à ce référendum. Or, le vote a été non. 55% des Français ont voté non. Et quand on analyse le vote, on s'aperçoit très rapidement que c'est aussi un non aux médias.
Well, first of all, the work that Edward Herman and I did on manufacturing consent doesn't say anything about the effect of the media on people.
D'abord, le travail que Ed Herman et moi avons fait sur la fabrique du consentement n'aborde absolument pas les effets des médias sur le public.
Now, this is a complicated topic which has not really been investigated in any depth, but the few studies that have been carried out indicate that for the more educated sectors, the media are very influential.
Il n'y a pas eu de recherche en profondeur beaucoup sur ce sujet-là, mais celles qui ont été menées montrent qu'en fait, l'influence la plus importante est sur la population la plus éduquée.
But for the general population, they seem to be far less influential.
Alors que la masse de la population a l'air d'être beaucoup moins marquée et influencée par les médias.
So one striking illustration of that in the United States is that there is an enormous gap between public opinion and educated opinion. And educated opinion corresponds to public policy. Yeah. So that means that there's a huge gap between public policy and public opinion.
Il y a un fossé, par exemple, aux États-Unis, entre l'opinion publique générale et celle des gens éduqués. Et celle des gens éduqués, leur opinion correspond, recouvre celle de la politique générale qui est menée, qui montre qu'il y a un écart d'autant plus important avec la masse de la population par rapport à ses orientations.
So, for example, let's take a current issue, say, possible war with Iran.
Prenons un exemple précis, par exemple, la guerre éventuelle contre l'Iran.
The population is overwhelmingly opposed. About 75% of the population thinks we should end all threats against Iran.
75% de la population, c'est-à-dire son écrasante majorité, est contre cette guerre et contre toute menace militaire contre l'Iran.
And think we should move to diplomatic relations and negotiations.
Et qu'on devrait privilégier des négociations et une voie diplomatique.
In fact, it turns out that Iranian public opinion, which has also been studied by Western agencies, Iranian public opinion and American public opinion are almost identical on any nuclear-related issues.
Il y a même des recherches qui ont prouvé que l'opinion publique iranienne, comme l'opinion publique américaine, se retrouve presque parfaitement sur ces questions nucléaires, en tout cas.
So, in both countries, overwhelming majorities think that Iran should have nuclear energy but no nuclear weapons, that there should be a nuclear-free zone in the whole region from Iran to Israel, including American forces deployed there, and that nuclear weapons should be eliminated.
Voilà, l'écrasante majorité de la population des deux pays trouve que l'Iran devrait avoir un nucléaire civil, mais pas de nucléaire militaire. Il devrait y avoir une zone sans engins de guerre nucléaire qui irait d'Israël à l'Iran et qui comprendrait aussi les troupes américaines basées dans la région.
And that they should eliminate all nuclear weapons in the world.
Et que toutes les armes nucléaires devraient être éliminées dans le monde entier, pour le coup.
You'll have to look very hard to find anything in the media that expresses that view.
Et pour trouver ces représentations de cette opinion dans les médias, faut s'accrocher, faut chercher très loin.
And in the political parties, it's not a position.
Et c'est une position qui n'est reprise par aucun parti politique.
In fact, if Iran and the United States were functioning democracies in which public opinion played a role in public policy, this issue would probably be solved.
Et si les États-Unis, par exemple, l'Iran étaient des démocraties qui fonctionnaient et qui prennent en compte l'opinion publique, c'est une question, un enjeu qui ne sera pas un.
Et pourtant, si.
Il y a beaucoup d'autres exemples de ça.
Now, Iran says it will retaliate against any attack by the U.S. against its nuclear program, but despite the warning by President Mahmoud Ahmadinejad, the two countries.
Alors, on le voit avec Chomsky, c'est pas seulement la liberté supposée ou honnêtement supposée du journaliste qui est en cause, c'est tout l'appareil qui, toutes ces structures invisibles évidemment, qui vont pousser au consentement général, à l'assentiment général, aux illusions nécessaires. Et cette, ce qu'il faut bien appeler la propagande, ce que Ederman et Chomsky appellent bel et bien la propagande, a une histoire. On va le voir plus loin avec Normand Baillargeon et son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Il y a un moment où l'ouverture de ces sociétés où nous vivons, nous, heureux, humains gâtés dans des sociétés démocratiques et ouvertes, il a fallu trouver quelque chose pour nous contrôler et nous faire aller là où ces pouvoirs souhaitaient que nous allions. Alors, je peux donner l'impression de qu'il y a des propos paranoïaques avec un pouvoir caché derrière un immense complot. Non, disent Ederman et Chomsky, il y a un état des choses qui est ainsi sans nécessairement que quelqu'un quiconque l'ait véritablement conçu. Il n'y a pas quelque part un endroit où on tire véritablement les ficelles. C'est un système qu'il s'agit peu à peu de mettre à nu et nous pouvons en tout cas contribuer à cette mise à nu du système.
It's very familiar. Let's take again, say, Germany in the 1930s.
Prenons un autre exemple, tout simple, l'Allemagne dans les années 30.
I mean, Germany, we tend to forget, was the most advanced country in the Western world.
On a tendance à oublier, mais l'Allemagne à l'époque était le pays le plus en avant dans tout le monde occidental.
It was at the peak of science and the arts and literature and philosophy.
À la pointe dans l'art, les sciences, la littérature, la philosophie.
Within a few years, it was turned into the most barbaric, murderous country in human history.
Et en quelques années, ça s'est retourné en étant le pays le plus meurtrier, le plus barbare que l'humanité ait connu.
And a lot of it was based on the creation of fear.
Et tout ça en suscitant de la peur.
Fear of the Bolsheviks.
La peur des bolcheviques, des juifs,
the Americans,
des Américains.
The center of Western civilization, the inheritors of the Greeks.
Voilà, qui menaçait le cœur de la civilisation européenne, les héritiers directs de la civilisation grecque.
That's what Martin Heidegger was writing in 1935.
C'est ce que le philosophe Martin Heidegger écrivait en tout cas en 1935.
And it was, of course, all over the media. And in fact, they were borrowing consciously the techniques of American commercial advertising.
Et ils étaient en fait en train de reprendre délibérément les techniques marketing des marchands américains.
You read the propaganda ministry in Germany and they explain it. They take a few simple words, you keep repeating them over and over, you appeal to emotion, you appeal to fear and so on.
Il suffit de voir les règles du ministère de la propagande allemand à l'époque, c'était très simple. Il suffit de prendre des mots simples, les répéter encore et toujours, les associer à des peurs, les associer à des sentiments.
When Hitler took over the Sudetenland, it was with the most noble objectives.
Quand Hitler envahit les Sudètes, c'était avec les objectifs les plus nobles qui soient.
It was a humanitarian intervention.
Et c'était une intervention humanitaire.
They were going to overcome ethnic cleansing, you know.
Ça allait empêcher le nettoyage ethnique.
All these people would live happily within the supervision of the world's most advanced cultured nation.
Pour que tout le monde puisse vivre sous l'aile, sous le soutien de la puissance la plus développée du monde de l'époque.
Il y a toujours une cause très vertueuse.
Germany invaded Poland, it was in self-defense.
Et quand l'Allemagne a envahi la Pologne, c'était aussi pour l'autodéfense.
It was in self-defense against what Hitler called the wild terror of the Poles.
C'était contre la terreur blanche, ce qu'appelait Hitler.
Alors, vous travaillez depuis longtemps sur ce thème, vous avez mis ce thème à jour. Est-ce que vous voyez une évolution, ou bien est-ce que c'est vraiment, il faut désespérer et on ne changera jamais rien?
Well, you know, in a sense, everything is the same as in Athens.
Oui, d'une certaine manière, tout est toujours pareil qu'à l'époque de l'Athènes.
But there's been a lot of progress.
Mais il y a eu énormément de progrès.
For example, take just the instruments of propaganda that I've been discussing.
Prenez par exemple l'exemple des instruments de propagande dont j'ai parlé.
They mostly developed in the 1920s.
Ils sont développés principalement dans les années 20.
In the freest countries in the world.
Dans les pays les plus libres du monde, l'Angleterre, les États-Unis.
And that's the center of the modern public relations industry, which is a propaganda agency.
Le cœur vraiment de l'industrie moderne de relations publiques, qui est en fait de la propagande.
And the reason was, and it was conscious, is that there had been enough progress, and that people had won so much freedom that the state could no longer control them by violence.
Voilà, et la raison de ça, c'était qu'il y avait un tel développement des libertés que le pouvoir, l'État, ne pouvait plus régner sur les gens par la violence.
Women were being allowed to vote, there was more freedom of speech, people had won many rights.
Les femmes avaient le droit de voter, les gens avaient plus de droits.
So then there was a move towards what was called manufacture of consent.
Et c'est vers là qu'on est allé, vers la fabrique du consentement.
And that's when you get the public relations industry, the huge propaganda industry, using the democratic models of thought control.
Et c'est là où l'industrie de relations publiques, qui est l'industrie de propagande, utilise
engineering of consent,
voilà,
et, thought control.
Voilà, utilise les méthodes de la fabrique du consentement et du contrôle des idées, les contrôles des pensées.
And that's a lot of progress.
Et ça, c'est un grand progrès.
I mean, it's much easier to face advertising than to face a torture chamber.
Oui, c'est beaucoup plus facile de regarder une publicité que de regarder une chambre de torture.
La première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de votre cerveau.
La deuxième est de vous extraire de tout ce système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où ça devient réflexe de lire la première page du Los Angeles Times en y recensant les mensonges et les distorsions. Un réflexe de replacer tout ça dans une sorte de cadre rationnel. Pour y arriver, vous devez encore reconnaître que l'État, les corporations, les médias et ainsi de suite vous considèrent comme un ennemi. Vous devez donc apprendre à vous défendre. Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Ainsi a parlé un jour Noam Chomsky, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Normand Baillargeon, que nous allons retrouver, est l'auteur d'un petit bouquin, pas petit d'ailleurs, en français, qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle, dont nous avons déjà parlé, et que je vous recommande chaudement, avec cette petite phrase d'un certain Poincaré qui disait: douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. Alors Normand, si tous les entretiens, si toutes les entrevues, les interviews demandait autant de boulot, la radio française serait ruinée.
Explication.
Pour te rencontrer, il a fallu qu'on vienne à Boston. De Boston, il a fallu qu'on rencontre Chomsky.
Oui, bien sûr.
De Boston, il a fallu qu'on vienne à Montréal. De Montréal, il a fallu qu'on vienne
à Saint-Antoine.
Toi, à Saint-Antoine de Richelieu. Et chez toi, il a fallu qu'on soit reçu par toute la tribu Baillargeon. Il a fallu qu'on mange et qu'on boive.
Passage obligé.
Passage obligé. Jusqu'à pas d'heure. Il a fallu qu'on écoute la famille en train de jouer de la musique, etc. Et enfin, maintenant...
On peut s'asseoir et discuter. Et oui, je comprends, alors que c'est une entrevue qui coûte cher.
C'est quand même très, très coûteux. Tu coûtes cher à la Radio Nationale Française. Alors, on est là pourquoi ? On est là parce qu'en plus... Tu veux nous donner un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un bouquin formidable que beaucoup d'auditeurs ont déjà découvert, mais qu'on va essayer de faire découvrir à d'autres et qu'on va essayer de découvrir avec toi. Le titre est très clair. Il s'agit évidemment de détecter tous les pièges, et ils sont très très nombreux, qui traversent le langage tout simplement et les usages qui peuvent en être faits par, on va dire grossièrement, par les organes du pouvoir, par toute le système de domination. Mais avant de venir au bouquin, je voudrais que tu parles un petit peu de toi. Tu enseignes la philosophie de l'enseignement.
De l'éducation. J'enseigne la philosophie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Donc ça, c'est mon activité professionnelle de base, si je peux dire. Puis à côté de ça, j'ai des intérêts intellectuels assez variés dans toutes sortes de directions qui sont, pour un bon nombre, liés à mon activité militante. Alors je travaille dans des groupes militants, je travaille dans des publications alternatives ou indépendantes. Je fais des livres qui sont en partie aussi des livres militants, comme celui-là, puis d'autres.
Alors, ce qui a de l'intérêt, en tout cas pour aujourd'hui, c'est ce petit cours d'autodéfense intellectuelle. Explique-moi le titre et qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça, pour écrire ça.
Mais en fait, l'expression autodéfense intellectuelle, c'est une expression de Chomsky, comme je l'explique dans le livre. Chomsky dit quelque part que si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Alors, cette image-là, je la trouve forte et intéressante, cette idée de judo ou de karaté mental ou d'autodéfense. Et quand on se met à y réfléchir un peu, ça, sans même avoir lu Chomsky, tous les gens savent bien qu'on est constamment bombardé d'informations, que beaucoup d'institutions tentent d'obtenir notre assentiment, de nous convaincre de ceci ou de cela. Et l'idée d'une autodéfense intellectuelle m'a donc séduit de ce point de vue-là. Et je me demandais, qu'est-ce qu'il y aurait dans un cours d'autodéfense intellectuelle? Alors, Chomsky dit, si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle? Fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Que comprendrait un tel cours? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire un, c'est-à-dire de développer les outils qui me semblaient indispensables pour assurer son autodéfense intellectuelle.
La manipulation par le langage, parce que c'est ça que tu essayes de démonter dans ce bouquin, c'est une vieille coutume, c'est une vieille histoire. Ça commence pas avec Chomsky.
Tout à fait. Je veux dire, La rhétorique est née dans l'Antiquité grecque de gens qui ont intenté des procès à des personnes qui les avaient spoliés de leur terre pour essayer de les récupérer. Et partant de là, la sophistique est née, puis tout l'art du langage qui a été une composante majeure de l'éducation pendant toute notre histoire en Occident. C'est assez récent que la rhétorique, étudiée de ce point de vue-là, soit une discipline qui ne soit plus massivement présente dans le cursus scolaire. Et je trouve que c'est déplorable parce que des éléments de rhétorique, de logique formelle permettant de repérer des sophismes, permettant de comprendre comment par le langage on peut travailler à la persuasion, comment on peut tromper à l'aide du langage, comment, parce que le langage est un outil magnifique et permet de s'exprimer de manière claire, de transmettre des idées et d'échanger. Mais c'est important de voir aussi que cette réalité-là a son inverse, qui est de savoir qu'on peut tromper avec le langage, qu'on peut présenter des visions déformées du réel, des visions partielles du réel. On peut commettre des erreurs de raisonnement assez facilement. Personne n'est à l'abri de ça. Donc le petit cours d'autodéfense intellectuelle s'ouvre sur un chapitre où j'essaie de donner à mes lecteurs des outils d'autodéfense intellectuelle liés au langage. Ça, c'est le premier chapitre.
Oui, mais on pourrait presque dire, et c'est ce qu'on se dit en lisant justement ce premier chapitre, que finalement, dès qu'il y a langage, il y a du prix possible. Hein? Langage égale émerveillement, oui, bien sûr, le langage est un émerveillement, oui, mais c'est aussi un ensorcellement possible, c'est-à-dire que je parle, et je peux t'ouvrir l'esprit, mais je peux aussi bien te tromper. Et ça, c'est dès qu'il y a langage.
Et c'était connu des anciens. Je vous rappelle Ésope, hein, qui son serviteur va au marché chercher la meilleure des choses et ramène une langue. Et ensuite, on l'envoie chercher la pire des choses et ramène encore une langue. Alors, le langage est à la fois la meilleure des choses la chose la plus dangereuse. Remarquez que les outils qui sont présentés dans ce livre-là exigent déjà, je ne les ai pas inventés, hein, comme par exemple pour le langage, la rhétorique est une discipline ancienne d'une redoutable efficacité. Les sophistes dès la haute antiquité avaient analysé toutes les techniques par lesquelles on peut convaincre des gens de certaines choses, même bien qu'elles ne soient pas vraies ou pas manifestement vraies. Toutes les manières par lesquelles on peut utiliser des mots pour donner une vision déformée des choses. Alors, ce sont des choses anciennes. Même chose avec les mathématiques dont on parlera, si vous voulez. Sauf que elles sont peu souvent transmises de manière systématique dans l'esprit d'assurer son autodéfense intellectuelle, tu vois. Et je pense que c'est ce qui devait être fait.
Dès le début, tu préviens d'une chose. Tu dis, attention, ce que vous allez lire là ne doit pas vous entraîner à un scepticisme systématique, une sorte de paranoïa absolue qui voudrait que vous rejetiez tout. Mais ça ne doit pas non plus vous conduire à un angélisme qui vous ferait tout accepter.
Oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, la personne qui l'a le mieux dit, c'est Carl Sagan, le grand astronome américain qui est mort maintenant. Sagan expliquait qu'il est essentiel de parvenir à ce qu'il appelait un délicat équilibre, soit entre la propension à douter de tout, qui peut être néfaste aussi parce qu'aucune nouvelle idée va jamais t'atteindre. Tu seras jamais ouvert à quoi que ce soit de nouveau. Et la propension à tout accepter. Et à ce moment-là, ta crédulité est telle que tu ne crois vraiment à rien et tu ne comprends rien du tout. Alors, il faut parvenir à un délicat équilibre, tu vois, entre la propension à douter de tout et la propension à tout accepter. C'est un exercice assez difficile, la pensée critique, mais je pense aussi que c'est à la portée de tout le monde.
Oui, c'est ça, c'est à la portée de tout le monde. On est un peu étonné en disant, on dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on l'enseigne pas? Tu fais de la philosophie de l'éducation, et pourquoi est-ce qu'on, c'est pas une discipline qui pourrait être enseignée aux élèves?
J'ai ouvert le livre Petit cours d'autodéfense intellectuelle en disant que j'étais préoccupé par un grand nombre de choses. Alors, il y en a une que les auditeurs vont comprendre facilement, c'est la propagande qui nous entoure, les firmes de relations publiques, les agences de publicité, le gouvernement, les médias. Tout le monde est sensible au fait que beaucoup de voix se font entendre, qui cherchent à nous convaincre et qu'il est essentiel de rester critique par rapport à elles. Mais d'autres sujets de préoccupation pour moi, c'était les pseudosciences, la propension paranormale, l'astrologie. Voilà des choses contre lesquelles je voulais également mettre en garde. Mais troisième objet de préoccupation par lequel je réponds à votre question, c'est l'éducation. Alors, je ne sais pas bien comment ça se passe en France, bien que je lise aussi sur ce qui se passe chez vous, mais chez nous, on est en train de procéder à cause, en partie, sous inspiration néolibérale, on est en train de procéder à une sorte d'instrumentalisation de l'éducation qui est absolument déplorable, par laquelle on vide l'éducation d'une part de sa substance, qui fait que l'éducation est une école de liberté, tu comprends? Alors, dans la perspective d'une approche où l'éducation doit servir à former des compétences pour le marché du travail ponctuel, des préoccupations comme celles-là ne sont pas aux premières lignes, malheureusement.
Normand Baillargeon le retrouvera demain, ainsi que Noam Chomsky, Jean Bricmont, Ibrahim Ouad et Bev Stoll, merci. Un reportage avec Guy Vanctil, qui est sur la traduction, le montage, etc. À lire donc Le Cahier de Lerne, Chomsky, co-dirigé par Jean Bricmont et Julie Franck aux éditions de Lerne. Les états manqués de Noam Chomsky qui viennent sortir aux éditions Fayard. Le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Et puis de Jean Bricmont aux éditions Aden, Impérialisme humanitaire. Et à voir le film dont j'ai parlé, Les médias et les illusions nécessaires, de Marc Akbar. À consulter le site de Znet, www.zzmag.org. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Basse, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Yann Chouka et Yann Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et Christophe Humbert attend vos réactions, vos messages sur le répondeur de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Réclame.